Restitution. Ici, dans notre assemblée, nous ne sommes pas une dénomination organisée. Nous ne sommes pas assujettis à un système organisé. Et nous ne sommes pas davantage liés à une assemblée quelconque, à la manière d'une dénomination. Et pourtant, nous sommes unis avec tous les croyants de toutes les dénominations dans le monde entier. Notre petite assemblée ce matin est connue à travers le monde entier. Les bandes enregistrées, telles qu'elles sont prêchées, sont envoyées dans le champ missionnaire. Nous envoyons les bandes enregistrées dans 19 pays différents. 19 nations différentes acceptent ce message et le traduisent. Pendant que je prêche, quelqu'un est debout à côté de moi et traduit la prédication. Et ces sermons sont ensuite apportés là-bas dans des régions de l'Afrique où Dieu est encore inconnu. En Afrique du Sud, en Amérique du Sud, partout, des centaines et des centaines viennent au Seigneur et beaucoup sont guéris. C'est la raison pour laquelle nous sommes persuadés que ce message doit être répandu. Ce ne sont pas de grands immeubles qui doivent être édifiés, car pendant que je suis ici, j'aimerais donner quelques leçons tirées de la Bible. Mais là-bas, sur le champ missionnaire, je ne prêche pas la doctrine, car cela ne ferait que de rendre le travail plus difficile. Les hommes diraient que mon enseignement n'est pas correct. Si je prêchais la doctrine méthodiste, alors les baptistes et... Vous savez, les méthodistes, ils ne s'accorderaient pas. Et si je prêchais ce qu'enseignent les nazaréens, les autres y seraient opposés. Vous devez donc prendre une position où tout croyant se sente le bienvenu, quelle que soit la dénomination de laquelle il vient. Et si seulement vous êtes nés de nouveau par l'Esprit de Dieu, alors vous êtes nos frères et nos sœurs, et nous aimerions que cela reste toujours ainsi. Si le Seigneur le veut, j'aimerais parler aujourd'hui dans notre assemblée sur un thème biblique, car notre assemblée est fondée sur l'enseignement biblique. Et j'aimerais exposer sur quoi l'Église est fondée et pourquoi nous faisons de cette manière. Pendant cet exposé, des différends surgiront inévitablement entre nous et bien des questions se poseront à chacun. Pourquoi enseignons-nous certaines choses et les croyons-nous? Et si cela devait arriver, que votre Église ou vous-même ne croit pas comme nous l'enseignons ici, comme doctrine pour l'Église, alors j'ai confiance que cela ne sera en aucune manière une pierre d'achoppement. Le premier pas pour servir le Seigneur avec succès, éprouvant aussi que nous avons reçu le Saint-Esprit, c'est l'humilité. Une humilité donnée par Dieu, et il faut que cet enseignement soit distribué dans l'humilité. Une église sans enseignement est semblable à quelqu'un dépourvu de colonne vertébrale. C'est pourquoi nous devons avoir cette colonne vertébrale de l'enseignement. Et non seulement cela, mais aussi la nourriture doit être donnée à l'Église, car ceci vit du pain de vie. Je vous en prie qu'il n'y ait pas de malentendu entre nous à cause de certaines choses que je puis être amené à dire et que je cherche à faire pénétrer en vous. Je ne veux pas être rude en parlant de la Bible. Je l'ai sondée depuis plus de 30 ans et je n'ai pas les pensées d'un homme. Ici sont assis des gens de l'Église catholique, des presbytériens, des baptistes, des méthodistes, des pentecôtistes. Ils sont tous assis là. Et je sais que chaque assemblée a sa propre profession de foi. Je ne veux pas que ce soit un sujet de désaccord, mais je ne peux que prendre l'Écriture et la comparer à l'Écriture. Je vous en prie, comprenez-le tous. Je ne veux pas être rude. Mais j'aimerais énoncer dans l'amour ce que je dois dire et vous exposer l'Écriture de mon mieux. Mon thème aujourd'hui est, ce sera un long sujet, et je n'aimerais pas me hâter, mais prendre suffisamment de temps pour les choses que je dois dire, et expliquer pourquoi nous croyons cela. Bien souvent, dans les églises, quelqu'un dira, que croit-il? Est-il encore un baptiste? Ou est-il devenu pentecôtiste? Croit-il au parler en langue? Est-il ceci ou cela? Croit-il à la sécurité éternelle du croyant? Et pour une simple remarque, dévoilant ce que vous êtes, ils vous laisseront tomber comme une pomme de terre bouillante. Ils ne prendront même pas le temps de méditer, mais ils vous laisseront tomber tout de suite. Nulle part, à ma connaissance, je n'ai laissé derrière moi, dans une église, un désaccord entre les frères. Je prêche le retour du Seigneur, le salut des âmes, la guérison du corps, et à travers ce message, aucune personne acquise au plein évangile n'est offensée. Mais ici, nous avons l'enseignement dans l'église. Parfois, quelqu'un dit, « Frère Branham a dit ceci ou cela. » Par exemple, récemment, dans une assemblée, mon secrétaire a rencontré un groupe de prédicateurs, et ils lui demandèrent, Frère Branham croit-il que lorsqu'un homme est devenu croyant, il le reste pour toujours, quoi qu'il puisse faire? Je connaissais ce groupe et je savais parfaitement quelle réponse ils attendaient de moi. Or, peu importe que ma réponse soit oui ou non, ce qui importe, c'est que je sois sauvé. Je n'ai rien répliqué et 16 assemblées se sont retirées parce que je n'ai pas donné la réponse. Uniquement parce que je désirais garder la communion avec tous les croyants. Mais aujourd'hui, je veux exposer pourquoi je crois ce que je professe. Prions. Seigneur, toi qui as ramené Jésus d'entre les morts et nous l'a donné comme un sacrifice de ton amour, tu nous as lavé par le bain d'eau de ta parole. Et tu t'es purifié, sanctifié un peuple particulier, appelé mis à part. Et nous attendons patiemment la seconde venue de Jésus. Nous savons qu'aux yeux de l'humanité, il y a beaucoup de dogmes et de dénominations, mais Dieu et Père, nous te prions, bénis chacun d'eux en particulier. Et pour les choses qu'ils représentent, même si nous sommes en désaccord sur ces points, néanmoins, en qualité de chrétiens et de frères, nous devons nous épauler réciproquement. Et non seulement épaule contre épaule, mais aussi cœur à cœur. Nous vivons dans un jour d'indifférence, où les hommes sont orgueilleux. Ils aiment mieux la jouissance du monde que Dieu. Seigneur, nous prions que le Saint-Esprit lie nos cœurs plus étroitement de jour en jour. Guéris les malades aujourd'hui. Et Seigneur, ici sont ceux qui doivent être baptisés dans l'eau. Nous te prions que ton Saint-Esprit puisse les remplir de sa présence s'ils ne l'ont pas déjà reçu. Puisse-t-il être scellé et enlevé des choses du monde et être rempli de l'Esprit de Dieu avec l'amour divin et de la communion avec tous les hommes. Tu m'as envoyé aux nations, moi, un homme pauvre, sans instruction. Et cependant, dans mon cœur, je crois ces choses que j'ai crues et enseignées de la Bible, et qui furent confirmées par l'ange du Seigneur qui est présent, pour attester si cela vient de Dieu. Très souvent, les gens pensent que je suis un homme prêt à faire des compromis, mais tu es le juge de mon cœur. En son temps, Paul a prêché d'abord aux Juifs, afin de gagner leur confiance, puis il leur a prêché Christ. D'abord, il a gagné la confiance. Seigneur, nous te prions que tu sales ces paroles du sel de l'Esprit et de notre communion. Puisse le sang du Seigneur Jésus nous purifier, et que ceux qui sont appelés puissent venir et devenir semblables à toi, afin que le monde ait le désir de lui ressembler. Tiens-nous humbles et remplis-nous de ton amour et de ton esprit. Nous le demandons au nom de celui qui a prié, afin que nous soyons un, car tous devraient reconnaître que nous sommes tes enfants si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Amen. Oui, je sais, il fait chaud ici à l'intérieur et le climatiseur est enclenché. Maintenant, j'aimerais lire dans la parole de Dieu. Merci, cela suffit. Je désire que vous ouvriez vos Bibles avec moi dans Joël. J'ai encore quelques passages que je voudrais lire avec vous en rapport avec notre étude. Tout d'abord, Joël, chapitre 1er, en commençant au premier verset jusqu'au 4e. est la parole de l'Éternel qui fut adressée à Joël, fils de Pétuel. Écoutez ceci, vieillard, prêtez l'oreille, vous tous, habitants du pays. Rien de pareil n'est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères? Racontez-le à vos enfants, et que vos enfants le racontent à leurs enfants et leurs enfants à la génération qui suivra. Ce qu'a laissé le Gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le Yélek l'a dévoré. Ce qu'a laissé le Yélek, le Hazil l'a dévoré. Et lisons encore au chapitre 2 et versets 25 à 27. Je vous remplacerai. Les années qu'ont dévoré la sauterelle, le Yélek, le Hazil et le Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous rassasirez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion, et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Ensuite, j'aimerais lire dans l'Épître aux Romains, dans le premier chapitre, le verset 25, peut-être aussi le verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la parole de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Puis Romains chapitre 3, le verset 4, la première partie de ce verset. Loin de là que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai, est tout homme pour menteur. Nous entrons dans une série de thèmes importants. Or, je crois qu'un temps viendra où toute chose devra être restaurée, tout ce qui a été appliqué faussement. Et nous cherchons avec tout ce qui est en nous, et d'autres hommes le cherchent, comme de grands évangélistes tels que Billy Graham ou Oral Roberts, et aussi beaucoup d'évangélistes se trouvant à l'étranger, ainsi que les prédicateurs et les pasteurs qui restent fidèles à leur poste. Ils cherchent à voir un réveil dans notre temps. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, prions pour un réveil en ce temps. Chaque heure, des dizaines de milliers de prières montent à Dieu pour un réveil en notre temps. Et il est écrit, « Si mon peuple, le peuple qui est appelé de mon nom, se rassemble et prie, alors j'écouterai du haut des cieux. » Or, lorsque les enfants de Dieu sont rassemblés et prient pour un réveil dans notre temps et que le réveil ne vient pas, quelque chose doit être faux quelque part. Maintenant, pensez à cela, que tout ne peut fonctionner que selon des lois bien établies. La circulation routière ne peut s'écouler normalement que selon des règles bien établies. Les planètes se déplacent selon leurs lois. Le soleil ne peut se lever par rapport à la terre que pour autant que cette terre se tourne vers le soleil ou tourne autour du soleil. Tout doit fonctionner selon les lois établies pour cela, car Dieu a créé toutes choses, et il a donné des lois en conséquence, et tout doit alors se mouvoir dans l'harmonie. Ces lois, autrement rien ne se déroulera correctement. Et si vous prenez une chaîne, et si vous voulez en extraire un chaînon, et qu'ainsi cette chaîne est en deux parties, vous ne pouvez pas la réparer n'importe comment, mais vous devez prendre un chaînon de la même valeur pour l'introduire dans cette chaîne. Sinon, si vous tirez sur la chaîne, elle se brisera. Mais si ce chaînon est aussi solide que les autres, alors la chaîne tiendra. Je suis certain que nous avons introduit quelque part un faux chaînon. L'Église se meut trop lentement pour l'heure que nous vivons. Quelque chose est radicalement à l'envers. Ceci nous tourmente à tel point en ce jour, si près du retour du Seigneur, que nous nous arrêtons afin de trouver ce qui est faux. Nous devons trouver la cause. Vous ne pourrez jamais suivre un traitement médical sans que les causes de la maladie soient d'abord découvertes. Et si vous allez vers un médecin et que vous dites « j'ai de continuels maux de tête » et qu'il ne vous donne qu'une aspirine et qu'il vous renvoie, alors c'est qu'il veut simplement se débarrasser de vous. un médecin consciencieux, il analyse le cas jusqu'à ce qu'il ait trouvé la cause du trouble. Et sur cette base, il commencera son traitement. Il en va de même de l'Église du Dieu vivant. Nous devons trouver où est l'erreur. Et c'est par là que nous devons commencer. L'Écriture sainte est comme l'ordonnance d'un médecin. Un médecin, un homme de science, a travaillé avec acharnement pour découvrir un remède qui puisse tuer certains germes en nous, pour découvrir un sérum pour traiter certaines bactéries. Néanmoins, ce remède doit être administré avec un soin particulier. Car si la quantité est insuffisante, le remède n'aidera pas le malade. Mais par contre, si on y ajoute autre chose, cela peut tuer le patient. Il faut que le pharmacien prépare le remède tel que le médecin l'a prescrit. Ainsi, si quelque chose est à l'envers dans notre vie, ou dans l'Église aujourd'hui, que l'Église n'avance pas comme elle devrait le faire, il est nécessaire, selon mon opinion, qu'elle retourne à son ordonnance. Alors seulement nous saurons ce qui est faux. L'Église est si malade. Il existe des épidémies dans l'Église, souillées par le péché. Nous devons maintenant savoir ce que le médecin a prescrit. Nous devons examiner si nos prédicateurs pharmaciens nous donnent le remède qu'il faut. Vous pouvez rajouter quelque chose à une ordonnance terminée et tuer ainsi le patient. Et peut-être, je ne dis pas que cela soit passé, mais si nos prédicateurs pharmaciens ont ajouté quelque chose à l'Écriture, si oui, ils tuent le patient, le laissant mourir dans le péché. Or vous dites, s'ils sont sincères, non, ça ne les excuse pas. Par exemple, si un pharmacien a donné de l'acide à un homme, pensant que c'était un remède, et le patient est mort, pourtant le pharmacien était sincère. Non, la sincérité ne suffit pas. J'ai vu les païens qui, dans leur sincérité, nous surpassent tous, voyez-vous? J'ai vu comment des païens jetaient leurs enfants devant les crocodiles, et d'autres les sacrifiaient à des idoles. Un tel sérieux dans la sincérité, je ne peux pas même le voir parmi les chrétiens. J'ai vu comment des hommes ont tatoué leurs enfants, rendant leur corps partiellement estropié. Parfois, ils se sont totalement saignés et ils sont morts. Ils sont sincères, mais ils sont dans l'erreur. Maintenant, laissez-nous trouver quelque chose. Joël, je crois, nous a donné le vrai fondement. Et c'est le texte que nous avons lu. Dites à vos enfants et que vos enfants disent à leurs enfants et qu'ils le disent ensuite à une génération suivante, qui seraient les païens. Eh bien, Israël dit le toujours plus loin. Et nous voyons maintenant cette parole que Joël reçut en son temps s'accomplir en nous, les païens, en notre temps. Il disait en ce temps-là ce qu'allait laisser le gazam, la sauterelle l'a dévoré, etc. Et si vous prenez un livre sur les insectes, alors vous constaterez que ces quatre sont un même insecte, mais à différents stades de son existence. L'un est issu du précédent selon un certain stade de croissance. La sauterelle, etc., telle que c'est représenté ici, c'est le même insecte. Maintenant, s'il vous plaît, écoutez attentivement cela. Toujours, ce qui est arrivé au début, ce que ces insectes ont commencé de faire en ces temps-là, se révèle dans le développement suivant. Donc, cela débuta déjà au commencement, et c'est la même chose qui occasionne les difficultés que nous rencontrons actuellement. Examinons maintenant dans les Écritures, et voyons comment ces choses ont débuté. Nous savons que nous pouvons bâtir l'Église seulement si nous avons les matériaux que Dieu nous a donnés pour l'édification. Nous n'avons pas besoin de plus. Et je sais que ceci est de la nourriture consistante. Cela est aussi conservé sur des bandes magnétiques et des centaines à travers le monde l'entendront. Cependant, avant que nous puissions réaliser l'édification de l'Église du Dieu vivant, nous devons rétablir toutes les choses que ces insectes ont dévorées. Nous devons retourner à la source pour savoir ce qui a été enlevé de ce grand cep du Seigneur. Il est le cep et nous sommes les sarments. Or, avant que nous puissions savoir et avant que là l'Église ait réintégré son état primitif et puisse se présenter dans la puissance, nous devons savoir ce que les insectes ont dévoré. Et l'Église doit être restaurée au point où elle était au début. Sinon, elle ne se retrouvera jamais dans la gloire et la puissance de son début. Si l'écorce d'un arbre est dévorée, il faut d'abord que l'écorce revienne. Vous ne pouvez pas obtenir de fruits à moins que l'écorce ne soit d'abord présente, car sous l'écorce se trouve la sève. Et l'Écriture, les saintes Écritures de Dieu, cela c'est la ligne de vie pour l'Église. Comment pourrait-on revêtir un cep avec une autre écorce? Pour le cep, il faut avoir l'écorce du cep. Il faut l'écorce originale. Et l'unique moyen pour que cela arrive, c'est que Dieu lui-même la fasse croître. Nous ne pouvons pas aider à sa croissance par nos efforts. Rien de ce qui est fait par la main des hommes n'agira. Non, cela échouera. Toutes les choses inventées par les hommes, aucune ne pourra convenir. Vous pouvez essayer de mettre un sac autour de l'arbre et dire « Oh, sève, circule !» Non, mais elle ne pourra pas venir. Il faut que l'écorce soit là. Cela doit être de l'écorce. Et lorsque cette sève, cette vie, jaillira des racines, alors la même vie qui était au commencement apparaîtra. Pas étonnant que nous ne puissions avoir des réunions de guérison. Pas étonnant que l'Église soit ainsi en pièces. Pas étonnant qu'il y ait tant de divergences d'opinions. Parce que nous n'avons pas le fruit véritable, l'humilité, la patience et la douceur. Pourquoi? Parce que la ligne de vie de cet arbre est coupée, et nous ne pourrons jamais la remplacer par des statues ou par une quelconque écorce synthétique sur l'arbre. Non, il faut la puissance du Dieu Tout-Puissant pour ramener cet arbre dans son état d'origine. Or, comme l'Écriture l'a dit, ils ont des yeux et ne voient pas, ils ont des oreilles et ils n'entendent pas. Tout simplement, ils ne peuvent pas. Aucun homme ne peut venir à Dieu ou à Christ à moins d'être attiré par Dieu. Il y a quelques jours, j'ai parlé avec une personne et nous pensions à un certain passage de l'Écriture. Et je me demandais pourquoi les hommes ne pouvaient les comprendre. Et je dis, voilà, j'y suis. Et mes pensées rejoignirent celles de la parole. Peu importe que ce soit écrit le plus clairement possible, comme souvent le déclare la Bible, vous ne pouvez le voir avant que Dieu ne vous le montre. Et toute la Bible est la révélation de Dieu, et l'Église est bâtie sur la révélation du Saint-Esprit. Pourquoi Abel a-t-il apporté un meilleur sacrifice que Caïn? Pourquoi Abel n'a-t-il pas suivi Caïn? Tout était plus beau pour lui. Car cela fut révélé à Abel. Par exemple, lorsque Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» L'un d'entre eux dit, « Tu es Élie, ou l'un des prophètes. » Et il leur dit, « Mais vous, qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre lui dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus lui dit, « Tu es béni, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, tu ne l'as pas appris dans un livre ou dans un séminaire quelconque ou d'un enseignement humain, mais mon Père dans les cieux te l'a révélé. Et c'est sur cela que je bâtirai mon Église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » La révélation de l'Esprit sur la parole de Dieu. Dans Matthieu chapitre 11, ou dans ces chapitres, il est écrit que le Seigneur fit beaucoup de miracles, tant de signes prouvant qu'il était le Messie. Malgré cela, les hommes ne crurent point. Pourquoi? Ésaïe l'a dit, ils ont des yeux et ils ne voient pas, des oreilles et ils n'entendent pas. Et cela bien qu'ils fussent des docteurs, ils étaient enseignés dans la religion, ils étaient sanctifiés, purs, sans reproche. S'ils étaient trouvés fautifs sur un seul point, on les lapidait sans miséricorde. Personne ne pouvait les montrer du doigt. Ils avaient étudié l'Écriture jour et nuit, génération après génération. Et pourtant, Dieu les avait aveuglés. Dieu l'a fait. Ainsi est-il écrit. Dieu fait ce qu'il veut faire. Nous ne pouvons pas lui dire ce qu'il doit faire. Si nous lisons l'Épître aux Romains au chapitre 8, là il est écrit que Dieu suscita Pharaon pour lui montrer sa puissance afin que sa puissance soit manifestée. Et Dieu n'a-t-il pas dit avant la naissance d'Ésaü et de Jacob, qu'il aimait l'un et qu'il haïssait l'autre, voyez-vous? Tout doit se dérouler selon la prédestination de Dieu. Il n'est pas de ceux qui dorment, non. Il connaît toutes choses. Nous avons critiqué des hommes parce qu'ils nous semblaient sincères. Nous avons jugé des assemblées d'après leur succès. Et nous avons engagé des prédicateurs à cause de la célébrité. Non, cela ne doit pas être ainsi. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera point, avait dit Jésus. Et ce que la chenille a dévoré, la sauterelle a continué de le ronger. Il y a quelque chose à l'envers, car la parole de Dieu ne peut faillir, tout comme lui ne fait jamais défaut. Or, quelque chose est à l'envers. Pénétrons le problème. Nous avons établi le fondement, mais n'oubliez pas votre texte. Romains, chapitre 3, verset 4. Mais que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Nous voulons bien nous l'incruster et je désire que vous l'entendiez. Laissez la parole de Dieu être la vérité. Peu importe ce que quelqu'un d'autre peut dire. J'aimerais citer ici quatre points que je vois dans l'Écriture et qui ont été dévorés dans l'Église du Dieu vivant. Vous reconnaissez, vous méthodistes, vous baptistes, vous presbytériens, vous pentecôtistes, vous nazaréens, vous admettez tous, et vous qui êtes rassemblés ici, qu'il y a quelque chose de faux. Et nous sommes aussi coupables que tous les autres, car celui qui sait faire le bien ne le fait pas comme un péché. Alors maintenant, pénétrons dans le sujet. J'aimerais citer quatre choses selon l'Écriture, que je sais avoir été rongées de l'état originel de l'Église, de cette Église qui a été fondée le jour de la Pentecôte. Pierre avait prêché le sermon d'inauguration. C'est là que l'Église est née. Elle est née le jour de la Pentecôte. Et si Dieu est éternel et ne peut pas changer, alors son Église doit demeurer la même qu'elle a été au début. L'admettez-vous? L'Église doit demeurer pour toujours ce qu'elle a été. Mais des hommes l'ont prise entre leurs mains et ils ont donné leurs propres interprétations. N'essayez jamais d'interpréter la parole. Prononcez seulement ce qu'elle dit. Soyez en accord avec elle. Ne changez pas la parole. Car la Bible dit que la parole ne supporte aucune interprétation privée. Nous n'avons aucun droit de le faire, mais seulement lire et dire ce qui est écrit, et le croire de la même manière. Aussi impossible que cela puisse paraître, je le crois. La chair n'est pas un endroit pour dire une plaisanterie, et je ne veux pas le faire. Je veux seulement vous dire quelque chose, afin de vous montrer ce que j'entends. Il y avait un vieux frère noir dans le sud. Il portait toujours la Bible avec lui, et son chef lui disait, « Tu ne sais pas lire, alors pourquoi portes-tu la Bible sur toi ?» Il répondit, « Je crois ce qui est écrit. Oui, même si je ne sais pas lire, néanmoins je sais que ce qui est écrit là-dedans, c'est la vérité. » Et il ajouta, « Je crois même ce qui est écrit sur la reliure, c'est-à-dire les Saintes Écritures. » Et le chef lui dit, « Si je te lis quelque chose dans la Bible, le feras-tu ? » ?»« Oui, répondit-il. » « Je le ferai, car c'est le commandement du Seigneur. » Alors il lui dit, « Si je te lisais que le Seigneur te commande de t'élancer à travers ce mur, comment le ferais-tu s'il n'y a point d'ouverture ?» Et le frère lui a répondu, « Si tu lisais cela dans la Bible, alors Dieu me ferait l'ouverture lorsque j'arriverai auprès du mur. » Voyez-vous, c'est cela la vraie foi. Vous pouvez vous fier à la parole de Dieu. Il vous appartient de vous avancer par la foi maintenant. Une des premières choses sur lesquelles je désire m'entretenir avec vous quelques minutes, et si donc nous avons trouvé que le fondement doit être le retour à l'origine, et si quelque chose a été faussé, et si le cep n'est pas comme il devrait être, nous devons savoir de quoi il s'agit. La première chose que je voudrais mentionner sur ce qui a été ôté de l'Église, c'est la foi. Les hommes d'aujourd'hui n'ont plus la foi qu'ils avaient autrefois. Un ver quelconque a dévoré cette ligne de foi. Ils l'ont transformée. Aujourd'hui, leur foi repose sur n'importe quelle grande église, sur une dénomination. Mais Jude a écrit au verset 3, « Bien-aimés, comme je désirais vivement de vous écrire au sujet de votre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Non pour une foi, mais pour la foi transmise au sein une fois pour toutes. Cela a duré environ 33 ans. Lorsque cette foi est venue, il n'y a qu'une seule foi, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Vous pouvez avoir de la foi, mais nous voulons la foi. Nous voulons combattre sérieusement, nous lever pour elle, combattre sérieusement pour cette foi qui a été donnée une fois pour toutes aux saints. Pourquoi ont-ils été appelés saints? Parce qu'ils ont été sanctifiés. Ils ont été sanctifiés par le Saint-Esprit. Et c'est pour cela qu'ils ont été appelés saints. Or, Jude dit ici, je voudrais que vous combattiez sérieusement pour cette foi qui était donnée une fois pour toutes aux saints. Ne vous laissez jamais prendre cette foi. La foi des saints n'était pas un credo, ni dans une dénomination, ni dans l'édification d'église, ni dans un rassemblement, mais dans la présence du Dieu vivant. Ils avaient la foi de guérir les malades, de chasser les démons, de faire des miracles. Et toutes ces grandes promesses que Jésus avait faites se réalisèrent dans la première église. Les saints étaient fondés sur cette règle de vie. Écoutez ceci. Écoutez attentivement ce que j'ai à vous dire. La présence du Dieu vivant, c'est la règle de vie pour l'église et pour le peuple. La présence continuelle du Dieu vivant est là pour agir, pour servir, pour vivre parmi les hommes, comme il le fit au commencement. La présence de Dieu vint avec une telle puissance à la Pentecôte, avec des signes et des miracles. Et les hommes étaient si remplis de la gloire de Dieu qu'ils louaient en d'autres langues. Et ils sont morts en martyrs à cause de leur foi. Combattons sérieusement pour cette foi, jusqu'à ce que la mort nous déloge. Oui, combattre sérieusement. Nous ne traiterons pas de compromis avec ce que relatent les livres de prière ou ce que les hommes ont institué en une théologie ou un quelconque dogme ou livre de prière ou encore ce que quelqu'un d'autre a pu dire. Ma foi est édifiée sur rien moins que Jésus-Christ, sur son sang, sur sa justice. C'est lui qui est toute mon espérance. Et je m'en tiens à lui. Il est le roc inébranlable. Tout le reste est du sable mouvant. Aucun statut, mais seulement Jésus. Aucune loi, seulement la Bible. Pas de dogme, non, mais seulement la Bible doit donner la réponse. Et non seulement donner la réponse, mais dire toujours la même chose de la Genèse à l'Apocalypse. Toute la parole doit être tissée entre elles. Et si je prétends que la Bible se contredit, alors j'ai la mauvaise interprétation. Comment Dieu pourrait-il se contredire? Lui-même dans sa parole. Comme ma chemise, par exemple, est tissée du même matériau, ainsi l'en est de l'Écriture. Ce sera une église blanchie, sans tache ni ride. Elle doit être tissée avec le même matériau, également par le même Saint-Esprit qui a été répandu à la Pentecôte sur l'église. Vous ne pouvez rien y ajouter. Et l'on ne peut pas prendre une toile et l'enrouler autour de cet arbre. Non, car il perdra sa sève. Elle ne remontera pas dans l'arbre. Et un ver quelconque a pénétré et a rongé cette foi. Aujourd'hui, quelqu'un dira, je crois à la Sainte Église universelle, mais moi je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il révèle sa puissance de résurrection, aujourd'hui comme autrefois, et parce qu'il vit, je vis aussi. Non par des dogmes, non par une dénomination, mais parce que Jésus vit, je vis aussi. Je vis avec lui et par lui, et sa vie coule en moi. Et si l'on n'est pas ainsi, je ne peux pas prétendre même lui appartenir. Ce n'est pas une affaire de la tête, mais une affaire du cœur et de tout son être, qu'il puisse se tisser en moi et m'unir avec la parole. Voyez-vous? Je sais, parfois les choses sont écrites de manière que cela ne frappe pas tout de suite les regards. Jésus a remercié Dieu de l'avoir caché aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux enfants. Dieu avait un but lorsqu'il a agi de la sorte. Pourquoi a-t-il laissé venir un pécheur? Il est pourtant plus grand que le péché. Pourquoi a-t-il laissé venir le péché? Seulement afin qu'il puisse se révéler comme le Sauveur. Il aurait pu empêcher Satan de commettre le premier péché, bien sûr, mais Dieu s'est révélé comme Sauveur. Pourquoi les hommes deviennent-ils malades? Dieu est le médecin. Dieu est juste. Il doit placer l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance devant tous les hommes. mais comme il l'a fait devant Adam et Ève, afin qu'ils prennent une décision. Tout dépend de vous. Or, reconnaissez, la foi, la vraie foi, l'authentique foi. Considérez l'Église. Regardez les pentecôtistes, les baptistes, les presbytériens, les nazaréens, les pèlerins de la sanctification. Et ici, ceux qui écoutent Branham. Nous tous, nous sommes coupables. Parce que nous ne combattons pas sérieusement pour la foi. Une querelle peut se lever. Peut-être même ici, dans le Branham Tabernacle. Puis on forme un clan, les uns vont d'un côté, les autres vont de l'autre. Est-ce que c'est cela, combattre pour la foi, qui était transmise au sein une fois pour toutes? Est-ce le ton de l'enseignement des apôtres? Non, jamais mes frères. En ce temps-là, ils avaient le cas d'Ananias et Saphira, et Dieu est encore le même Dieu. Nous l'avons vu et éprouvé. Combattre sérieusement. Or, aujourd'hui, les hommes déclarent, ma foi ne l'enseigne pas, ou le temps des miracles est passé. Alors vous ne combattez pas pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes aux saints. Je ne crois pas à tout le fanatisme actif aujourd'hui, mais je crois que le véritable Saint-Esprit est présent ici ce soir. Je le crois, et nous luttons pour cela. Je crois au parler en langue. Vous dites, oh, je ne crois pas à la guérison divine. Il y a certes beaucoup de fanatisme, mais nous croyons que Dieu est là qui guérit les malades. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. J'ai vu beaucoup de choses sur ce qui est appelé le don de discernement, mais j'ai aussi vu que Dieu est vrai et que ce qu'il révèle est chaque fois exact. Cette foi qui a été donnée une fois pour toutes aux saints. Maintenant, certains appellent vision ce qu'ils ont eu une nuit, un cauchemar, après que leur ventre ait été trop rempli. Mais il y a aussi de véritables visions de Dieu, car Dieu l'a promis. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Et ce qu'il révèle n'est jamais faux. La Bible dit, si quelqu'un parmi vous est un prophète, si ce qu'il dit se réalise, alors écoutez-le, car je suis avec lui. Si ça ne se réalise pas, alors il est un faux prophète. Car Dieu ne peut pas mentir. Dieu dit chaque fois la vérité. Et c'est ainsi, oui, nous savons que cela est vrai. Voyez, Paul, toute espérance avait disparu. Le diable se riait de lui. La tempête était levée. Et cet homme a été 14 jours et 14 nuits sur le bateau, et il était enchaîné parce qu'il avait prêché l'Évangile. Et nous nous fâchons quand quelqu'un parle sur nous. Oh, que nous arrive-t-il? Rentrons, enfants, en nous-mêmes, et combattons sérieusement pour la foi. Là, nous avons encore beaucoup à apprendre. Comment agir correctement? Et aussi les pentecôtistes, les baptistes, les nazaréens. C'est la raison pour laquelle nous n'avançons pas. C'est parce que nous ne nous présentons pas sérieusement et honnêtement, face à face devant Dieu dans la prière. Et que nous ne croyons pas ce qu'il a dit. La foi qui a été transmise une fois pour toutes aux saints. Mais ce ver a pénétré, il a tout rongé, et aujourd'hui on dit, ceci ou cela ne peut plus se faire. Si Dieu a fait pousser le premier rameau du cep à la Pentecôte, c'était un temps de Pentecôte, avec la puissance, avec des visions, des révélations, des prophéties, remplies du Saint-Esprit. Et si Dieu fait sortir un autre rameau, il sera exactement le même. Chaque rameau sera pareil au premier. Et comme j'ai dit hier soir, en parlant à un groupe de frères, nous ne pouvons pas faire qu'un cep porte des choux ou un chou des raisins. Non, la vie de l'arbre sera révélée. Et si la vie de Jésus est en nous, nous serons comme Jésus est. Nous porterons ses fruits. Cela ne peut pas être autrement. Il faut que cela produise la vie, car c'est la même vie. Elle ne pourrait produire autre chose. Nous agirons comme lui, nous parlerons comme lui, nous guérirons comme lui. Nous aurons des visions comme lui. Ce sera à chaque fois parfait parce que c'est sa vie. Nous ne sommes semblables qu'à un vase. L'homme est comme un tuyau d'eau. Il n'est pas l'eau, seulement le tuyau. Retirez-lui l'eau et il rouillera. Il en est ainsi de vous, pentecôtistes, qui aviez une fois une expérience. Laissez couler l'eau afin que le tuyau reste propre. J'ai entendu une fois quelqu'un raconter comment, au printemps, à la fonte des neiges, lorsque toutes ces eaux se rassemblent, elles formèrent des torrents qui arrachaient et ravagèrent toutes les terres, voyez. Et c'est ainsi aussi que paraissent les choses qui doivent être éliminées de l'Église. Venons à la coupe remplie de sang. Soyons lavés dans l'eau pure. N'allons pas de côté et d'autre. Et en ce temps, 16 prédicateurs, parce qu'ils pensèrent que je croyais que Dieu maintenait son Église, même si une personne qui s'était convertie retombait, qui serait tout de même auprès de Dieu, 16 prédicateurs m'ont quitté. Mais voyez, nul ne peut me dire à Dieu, à moins que cela ne lui soit révélé. Et tous ceux qui sont venus à lui sont passés de la mort à la vie. Ils sont passés de l'autre côté. Qu'arrivera-t-il avec eux? Dieu les a appelés, c'est la vérité. Aujourd'hui on dit, vous pouvez recevoir le Saint-Esprit et être sauvé aujourd'hui, et demain vous pouvez le perdre. Ne le croyez pas. Tout cela c'est du mensonge. Ou bien vous êtes né de nouveau et votre être tout entier est transformé. Si ce cep vivant pénètre en vous, vous ne porterez plus jamais de choux. Et si quelque chose est à l'envers en vous, vous tomberez sur votre face et vous ne vous relèverez pas jusqu'à ce que Dieu vous soit venu en aide. Voyez, le chou est si près du sol, mais le raisin, il croît en hauteur. Oh, combattre pour la foi. Combattez sérieusement. Non seulement lutter, mais mener un combat entre la vie et la mort. Nous pourrions discuter longtemps, mais continuons. Le point suivant, c'est l'amour fraternel qui vient de ce cep. Oui, l'amour fraternel. Jésus a dit, à cela tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Prenons un exemple. Si un homme ne croit pas comme moi, alors je vais aller tout de même vers lui et je prêcherai dans la mesure de sa foi parce que je l'aime. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. S'ils n'ont pas d'amour fraternel, ils se détachent, ils tombent et disant, je n'ai rien de commun avec lui. Or, vous me l'avez dit, vous ne savez pas ce que je crois, alors où est l'importance? Y a-t-il à savoir ce que je crois? Ce qui importe, c'est en qui je crois, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Et aussi loin que je m'en souvienne, je n'ai jamais laissé une mauvaise impression dans une église. Mais parce que l'amour fraternel a été retiré, Paul l'a dit, l'amour fraternel doit subsister. Pourquoi a-t-il été ôté? Écoutez attentivement, je vous prie. Nous allons vers de la nourriture consistante maintenant. Chaque fois que le diable prend quelque chose de l'arbre, si c'est l'écorce, il enveloppera l'arbre d'un sac fait de main d'homme. Et ce sac est censé être la ligne conductrice pour la sève. Mais le fruit ne viendra pas, car la sève tombera à terre. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas de réveil en notre temps. Trop de credos humains. C'est comme un vieux sac attaché autour de l'arbre qui laisse tomber la sève à terre. Le réveil ne peut pas passer à travers cela. Billy Graham a dit récemment qu'alors qu'il se trouvait en Angleterre, il a montré à son épouse comment des hommes et des femmes vivaient immoralement dans les parcs publics à ciel ouvert. Qu'est-ce que cela? Ce sont des sacs faits de main d'homme à la place de l'écorce suscitée par Dieu. La vie ne s'écoulera pas à travers. Si une église est enrobée de dogmes humains, la puissance de Dieu ne pourra pas se manifester. Ils diront, le temps des signes et des miracles est passé, et la sève tombera à terre. Amen. Je sais, vous pensez que je deviens fou, mais si je le suis, laissez-moi seul, je me sens bien. Or, dans la parole de Dieu, il est écrit, je suis le Seigneur, je ne change pas. Comment pourrait-il avoir changé maintenant? Comment cela a-t-il commencé, alors qu'il n'y avait pas encore de nomination? Et les hommes ont tenté de remplacer l'amour fraternel par les dénominations. L'amour fraternel a été coupé par les dénominations. Montrez-moi une fois que Dieu avait une organisation ou une dénomination et qu'il a fait de son église une dénomination ou qu'elle se soit changée en dénomination. J'ai beaucoup lu, et particulièrement maintenant depuis que je suis de retour de voyage. J'ai eu le livre de Fox concernant les martyrs, j'ai lu Joseph et Hassan de Babel, et aussi les premiers âges de Zimmermann, les pères de Nicée avant le concile de Nicée, etc. Et jamais il n'y a eu une dénomination que Dieu aurait organisée dans la Bible. Si nous faisons des dénominations, nous sommes éloignés de la volonté de Dieu. Un ver appelé dénomination l'a rongé. l'écorce originale de la moue fraternelle a été rongée et un sac a été mis à la place. Et si la vie de Dieu surgit de la racine du rejeton de David par le Saint-Esprit, alors ils disent, le temps des miracles est passé. Vous n'avez plus besoin de parler en langue. Vous n'avez pas besoin de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Les miracles n'existent plus. Il n'y a plus de guérison. Et cela continue ainsi. Un arbre bon et en santé n'a pas besoin d'être toujours traité. Pourquoi devons-nous le traiter? À cause des nombreux vers. Pourquoi doit-il en être ainsi? Parce qu'il n'est pas en santé. Pourquoi? Parce que les credos et les dénominations ont rongé la ligne de vie. C'est absolu. Méthodistes, baptistes, presbytériens, gens de la Pentecôte ont rongé la ligne de vie. Et ils ont cherché à donner le change par des dogmes, des credos, des dénominations et à rassembler les hommes par la politique. Dieu ne veut pas nous rassembler dans la politique et les credos. Nous sommes unis par le Saint-Esprit. C'est là l'unité de Dieu. Ô Dieu, remplis notre cœur et fais-nous un en Jésus-Christ. Cela est vrai, mon frère, cela est vrai, ma sœur. Mais cela a déjà commencé tôt après la croix de Christ, après sa résurrection, après la mort des apôtres, 300 ans plus tard, ils ont fait un concile à Nicée pour former la première église qui devint l'église catholique romaine. Puis vint Luther, Wesley, les pentecôtistes et les autres, comme les nazaréens, les unitaires, les baptistes et tous les autres, et tous en étaient issus. Mais plus tard, ils se sont à nouveau enveloppés dans la même enveloppe, et si Dieu a donné une bénédiction à une église, alors ils ont établi une barrière autour d'eux et ils se sont isolés des autres. Dieu veut démolir toutes les barrières. Je me souviens lorsque pour la première fois je suis parti au Kansas, dans l'Ouest. J'ai vu là les vieux cow-boys. Ils ne connaissaient pas les tracteurs ou la moissonneuse et tout ce qu'ils savaient, c'est qu'ils avaient gardé le bétail là. Et lorsque vint la batteuse, je vis un homme à longue barbe qui disait « Je ne puis pas supporter de voir que partout des barrières ont été élevées. » Cela l'avait amené à ne presque plus supporter ce changement. Il ne voulait pas voir cette grande contrée entourée de barrières. Et des larmes coulèrent sur ses joues. Et maintenant que le soleil est sur le point de se coucher, que Dieu nous soit en aide, afin que des pèlerins puissent être ici, qui ne veulent pas demeurer emprisonnés par les barrières des dénominations. Et maintenant que le soleil se couche, ayons une foi stable, immuable, combattons pour cela, avec un amour fraternel qui démolit toutes les barrières. Car nous sommes frères, nous sommes un en Christ. Nous disons amen à ce que Dieu dit. Oh, donne-nous cette race d'hommes. Des femmes ont livré leurs enfants. Ils devaient baiser le crucifix, ou alors ils étaient assassinés ou mis sur le bûcher, et même des femmes enceintes durent supporter ces temps difficiles. Mais les martyrs restèrent fermes. Ils ne reculèrent pas. Ils savaient où ils se trouvaient et en qui ils avaient cru. Ils savaient que Dieu était en mesure de les ressusciter, et ils ne voulaient pas s'incliner devant les œuvres mauvaises faites par la main des hommes. Ils préféraient mourir. Laissez-moi mourir aussi de la même manière. Si mon Dieu ne vient pas, alors je mourrai. Je crois que Jésus-Christ et son Église sont les mêmes hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Peut-être que vous ne pouvez pas vous en séparer parce que toutes ces dénominations me retranchent et me rejettent comme une pomme de terre bouillante. Cela est peut-être vrai, mais soyez fidèles et criez afin que l'heure vienne, et Dieu restituera toutes choses à son Église, comme dans son état d'origine. Ces paroles peuvent être blessantes. Et troisièmement, je ne voulais pas vous blesser, mais voyez ce que les hommes ont fait dans ce temps de l'organisation. C'est ce qui a coupé le chemin de la sève. Lorsqu'ils possédaient l'amour fraternel, ils n'avaient pas besoin d'aucune dénomination. Mais lorsqu'ils constatèrent qu'ils n'avaient plus l'amour fraternel, ou qu'ils ne pouvaient plus l'avoir, mais ceux qui s'attendent au Seigneur sont fortifiés. Alors il fallait qu'ils fassent une organisation. Puis vint Luther, issu de cette organisation. Et qu'arriva-t-il après la mort de Luther? On fit de nouveau une organisation. Calvin en sortit, Wesley, puis les baptistes, les presbytériens, jusqu'aux pentecôtistes et les nazaréens. J'espère que le retour du Seigneur est proche, car les pentecôtistes ont fait la même chose que les autres. Et Apocalypse, chapitre 17, nous dit que l'Église catholique romaine est la prostituée et que toutes les autres sont ses filles. Elles étaient des prostituées. Naturellement, vous pouvez le lire dans Apocalypse, chapitre 17. Et toutes les autres étaient ses filles. Ce n'étaient pas des hommes, car dans la Bible, les églises sont comparées à des femmes. Et il est écrit que ces filles étaient des prostituées. Voyez, la même chose. Ils se sont livrés à la prostitution spirituelle contre la parole de Dieu. Ils ont pris les dénominations et ils ne combattent plus pour la foi qui était transmise aux saints. Voyez, nous devons revenir à la parole de Dieu. J'ai parlé récemment avec un prêtre. Il me questionnait sur le baptême d'une certaine personne. Et je lui ai dit, aucun point de vos actes ou de vos enseignements dans vos églises ne concorde avec la Bible. Car il voulait discuter avec moi sur le baptême dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et il m'a dit, savez-vous que l'Église catholique a baptisé jadis de cette manière? De cette même manière, cela est écrit dans notre catéchisme. Je répondis, non, vous étiez les premiers à inaugurer la fausse Église. Le faux baptême. Nous croyons le catéchisme, répondit-il. Je lui ai dit, qu'en est-il de l'histoire de l'Église? Tout comme nous savons par l'histoire qu'Abraham Lincoln a existé, ainsi nous possédons aussi l'histoire de l'Église. Je lui ai dit, non, jamais l'Église catholique n'a baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, car ce furent eux, le fondement, qui introduisit le faux baptême. Alors il répondit, mais écoutez, nous sommes l'Église. Nous avons le droit d'agir ainsi, car Dieu est dans son Église. Je lui ai dit, Dieu est dans sa parole. Et si une Église n'est pas conforme à la parole, elle est fausse. Laissez la parole de Dieu être la vérité et toute parole humaine un mensonge. Justifiez sa parole. Retournez à sa parole. Voyez ce qu'ont rongé les vers. Or, au temps des pères de Nicée, au concile de Nicée, un argument de poids partageait les opinions. Y a-t-il un Dieu ou trois dieux? Le Père, la première personne, le Fils, la seconde personne, et Dieu, le Saint-Esprit, la troisième personne. Ils conclurent qu'il y avait trois dieux. Si vous doutez de cela, je peux vous lire la description faite sur le concile de Nicée. Oui, ils ont conclu à trois dieux, mais il n'y a qu'un Dieu seulement, un seul. Il est Jéhovah, Dieu, le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. Seulement, ils devaient trouver quelque chose pour en faire une profession de foi. Alors ils ont intitulé Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, mais quelque chose comme cela n'existe pas. Trois dieux, c'est du paganisme. Ce sont trois appellations d'un seul et même Dieu. Dieu, en tant que Père, il fut seul dans sa sainteté, dans ses lois, dans sa justice. Puis il voulut se révéler aux hommes afin qu'ils aient communion avec lui. Alors il couvrit Marie de son ombre. C'était lui, Dieu, Jéhovah, qui créa une ovule fécondée. Et cette cellule se développa et elle donna naissance à l'homme Jésus-Christ. Le Dieu Tout-Puissant, le Père, vint sur lui lorsque Jean le baptisa. Et comme Jean l'avait dit, je vis l'Esprit descendre sur lui sous la forme d'une colombe. Et une voix se fit entendre, « Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et Jésus a dit, « Le Père et moi, nous sommes un. » Non pas que Christ soit fondu en un Dieu, mais Dieu, en Christ, a réconcilié le monde avec lui-même. Vous, frères de l'unité, vous vous êtes aussi égarés sur une mauvaise voie, parce que vous dites que Dieu est un comme un doigt est un. Il ne peut pas être son propre Père. Mais Dieu, Jéhovah, lui, en tant qu'esprit, voulut se faire une demeure dans laquelle il put habiter sur la terre, puis répandre ce sang pur et saint, afin qu'il puisse nous sauver et habiter en nous par le Saint-Esprit, lequel est le même Dieu, Dieu en nous. Il veut être avec nous et même en nous jusqu'à la fin du monde. Et les œuvres que je fais, vous les ferez aussi, a-t-il dit. Voyez-vous, ces choses ont été rongées par les vers. Ils disent, Dieu le Père est assis dans la gloire, Dieu le Fils est assis à sa droite, comme il est écrit dans la Bible, alors qu'Étienne était lapidé et qu'il vit le Fils de l'homme à la droite de Dieu. Mais cela signifie seulement qu'il a une entière autorité. Il pouvait dire, toute puissance m'a été donnée dans les cieux et sur la terre. Il est une autorité. Dieu était en Christ. La Bible dit, toute la plénitude de la divinité habitait corporellement en lui. Et si vous faites trois dieux individuels, vous êtes aussi païens que des païens peuvent l'être. Maintenant, voyez, lorsqu'ils ont choisi trois dieux, il fallait qu'ils fassent un baptême pour eux. Et c'est ainsi que le diable les a aveuglés avec Matthieu 28, 19, où il est écrit, « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez toutes les nations, etc. » Le diable les a aveuglés. Je dois bien le souligner. Bien que cela puisse être douloureux, mais je dois le faire. Oh, que Dieu nous aide, pour que nous puissions voir. Sondez-vous même l'Écriture. Et si vous trouvez dans la Bible entière que quelqu'un est baptisé dans les trois titres, Père, Fils et Saint-Esprit, alors vous avez l'obligation de venir me le montrer. Voyez-vous, le diable tord le sens de l'Écriture au point de lui donner une interprétation différente. Il va même vers Jésus pour lui dire, « Il est écrit qu'il ordonnera à ses anges de te porter. » Il cherche à donner un autre sens à l'Écriture. Mais Jésus était rempli du Saint-Esprit, et la révélation de Dieu était en lui. Et lorsqu'un homme est rempli du Saint-Esprit, Dieu lui révélera sa parole. Or là, il est écrit, « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Voyez, jamais avant le concile de Nicée, un homme ne fut baptisé dans les titres de Père, Fils et Saint-Esprit. Cela a commencé avec le début de l'Église catholique. Mais comment pouvez-vous voir si Dieu ne vous ouvre pas les yeux? C'est pourquoi je prie qu'il le fasse pour vous. Prenons l'Écriture, Matthieu 28, 19. Comment êtes-vous baptisé? Dans le nom du Père? Dans le nom du Fils? Dans le nom du Saint-Esprit? Cela n'est pas écrit dans la Bible. Vous dites, la Sainte Trinité, alors trouvez une seule fois ce mot dans la Bible. C'est une chose inventée par les hommes, quelque chose qui était appliqué par l'Église, mais non pas écrit dans la Bible. Non, pareille chose n'existe pas, sinon vous êtes obligé de me le montrer. Et si vous le trouvez dans les Saintes Écritures de Dieu, et le faux enseignement sur le Père, le Fils et le Saint-Esprit a été tiré de l'enfer, il n'y a pas trois dieux. Je crois en Dieu le Père. Je crois qu'il s'est révélé en tant que Fils et dans le Saint-Esprit. Mais c'est toujours le même Dieu, voyez-vous? Jésus n'a pas chaque fois répété et dit trois fois, baptisez-les au nom du Père et au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit, mais dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voyez? Il n'y a pas chaque fois la répétition, mais il s'agit là du nom unique du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Remarquez bien, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voyez, ici se trouve l'apôtre Juan. Ils ont reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte. Là, l'Église fut inaugurée. Elle fut fondée. Maintenant, la première prédication doit être donnée. Docteur Simon-Pierre, s'il vous plaît. Et Jésus lui donna les clés. Il lui dit, Pierre, je te donne les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu liras sur cette terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu déliras sur cette terre sera délié là-bas, et tout ce que tu diras ici sera aussi valable dans les cieux. Parle, écris, et qu'il en soit ainsi. Et lorsque les hommes se rassemblèrent et demandèrent, que signifie tout cela? Ils parlent en langue, ils glorifient Dieu. Et Pierre dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, pour la rémission de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Qu'ont-ils fait? Ils ont maintenant encore la formule de Père, de Fils et de Saint-Esprit, qui n'a pas été donnée à cette occasion. Et maintenant, aujourd'hui, ils disent, vous n'avez plus besoin de parler en langue. La puissance a disparu. Faites votre confession de foi. Mais tout cela est du poison du diable. Si vous avez reçu la même chose que les chrétiens avaient reçu le jour de la Pentecôte, vous agiriez comme eux, vous baptiseriez comme eux. Et ce que l'un a commencé de dévorer, l'autre a continué de le ronger. Tous étaient baptisés, juifs et païens, dans le nom de Jésus-Christ. Et celui qui n'était pas baptisé de cette manière devait se faire baptiser à nouveau. Montrez-moi dans la Bible une seule personne qui a été baptisée dans la formule au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est plus clair que mes 10 doigts devant vous. Mais vous ne pouvez pas le voir à moins que Dieu n'ouvre vos yeux. Et si cela n'est pas la révélation exacte, alors Pierre n'avait pas non plus l'exacte révélation. Car il a entendu lui-même ces mots de Jésus, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il lui a été révélé que ce nom est Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu nous a révélé la même chose. Et les gens de la Trinité ont une fausse révélation. Et la vie de Dieu est à nouveau jetée à terre. Et il tue les brebis. Nous pourrions dire bien davantage sur ce sujet des fausses pratiques. Mais permettez-moi d'éclairer davantage ce problème. J'aimerais le rendre si simple que même des enfants puissent le comprendre. Venez, je vous prie, à Matthieu, chapitre 1er. Si vous lisez les derniers versets, vous devez aussi lire les premiers versets. Venons-en à la Bible. Bien, ce groupe ici va représenter le Père. Les gens du milieu vont représenter le Fils. Et tous ceux qui sont à ma droite, le Saint-Esprit. Croyez-vous tous que Dieu le Père est le Père de Jésus-Christ? Je le crois de tout mon cœur. Père, Fils et Saint-Esprit. Regardez maintenant dans votre Bible, ou à la maison, Matthieu, chapitre 1, verset 18. Comme je l'ai souvent dit, si vous lisez une histoire, et qu'à la fin il est écrit, Marie et Joseph vécurent heureux dès ce jour, alors nous devons savoir qui est cette Marie et qui est ce Joseph et de quoi il s'agit. Vous devez donc lire un livre dès son commencement. Et s'il est écrit à la fin, baptisez-les au nom du Père, je vous demande, Père est-il un nom? Assurément pas. Dans le nom du Fils, et Fils est-il un nom? C'est un titre, c'est une désignation. Tout comme Père, le Saint-Esprit est-il un nom? C'est une désignation, de même que vous êtes humain, c'est-à-dire une désignation de ce que nous sommes. Voyez, c'est le Saint-Esprit, mais ce n'est pas son nom. Donc, si Père, Fils et Saint-Esprit ne sont pas des noms, quel est donc le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? C'est Seigneur Jésus-Christ. Vous le savez naturellement, voyez, Père n'est pas un nom. Et s'il est écrit « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », Pierre l'a justement dit, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ils ont répété cet ordre à travers toute la Bible. Mais qu'ont fait les organisations? Ils l'ont entouré de toiles dénominationnelles. Que je sois réduit à boire de l'eau et à manger des biscuits secs, mais que je prêche la vérité. Et si je dois mourir comme mes frères sont morts, aucun évêque, aucun cardinal ne peut résister à cet enseignement biblique. Mais ce que les méthodistes ont laissé, les baptistes l'ont encore mangé. Et ce que ont laissé, les pentecôtistes l'ont encore rongé. Voyez, la ligne de vie est coupée. Or, qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Là où il est écrit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Lesquels ne sont pas des noms. Retournons donc à l'histoire de Joseph et de Marie. Matthieu, chapitre 1, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Mais comment dites-vous maintenant? Mais Dieu est son Père. Mais comment Dieu peut-il être son Père? Et le Saint-Esprit être aussi son Père, si ce sont deux personnes différentes? Voyez, gens de la Trinité, vous critiquez ceux qui croient en un Dieu unique, mais Dieu doit appeler les choses par leur nom. Comprenez-vous ce que je veux dire? Il est écrit ici que la naissance de Jésus-Christ arriva ainsi, alors que sa mère Marie était fiancée à Joseph. Et encore avant d'avoir eu une relation ensemble, Marie fut enceinte par le Saint-Esprit. Alors, Dieu le Père n'avait rien du tout à faire avec cela. Et si Dieu le Père et le Saint-Esprit ne sont pas la même personne, alors Jésus aurait eu deux pères. et il aurait été engendré par deux esprits différents. Mais la naissance de Jésus-Christ l'a été par le Saint-Esprit. Le croyez-vous tous? Alors, Dieu le Père et le Saint-Esprit sont le même esprit. Puis il est écrit que tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes et dit, la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Quel est le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Seigneur Jésus-Christ, Emmanuel, Dieu avec nous. Or, qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont pas des noms, mais des titres. Ce sont les trois révélations de Dieu manifestées en une personne, en Jésus-Christ. C'est la vérité, frère. Je me tiens debout pour cela devant le jugement, et que Dieu me soit en aide. L'on dit aujourd'hui, le Père est ici, le Fils est là, et là est le Saint-Esprit. Mais Dieu est en nous, Dieu est avec nous, car il l'a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Non pas une autre personne, mais le même Saint-Esprit, le même Dieu, vous voyez? Le Seigneur Jésus, c'était la maison dans laquelle Dieu habitait, car Dieu est esprit, bien sûr. Or, Jésus n'était pas éternel, mais maintenant il est éternel, car Dieu a repris à lui ce corps sur le trône, voyez? Nous aussi nous étions, aux yeux de Dieu, élus dès l'éternité. Nos noms sont inscrits dans le livre de vie dès avant la fondation du monde. Combien savent qu'il est écrit dans la Bible que nos noms ont été inscrits dans le livre de vie avant la fondation du monde? Aux yeux de Dieu, nous étions déjà présents ce temps-là. Mais lorsque notre temps est arrivé, nous avons fait notre apparition sur la terre, dans un corps de chair. Vous me connaissez maintenant comme William Branham, mais Dieu me connaissait déjà dans sa pensée. Et qu'est-ce qu'une parole? Une parole est une pensée exprimée. Et Dieu dit, qu'il vienne, et je suis venu. Et lorsqu'il appellera encore une fois, je reviendrai. Voyez? Donc, une parole est une pensée exprimée. Et il a exprimé ses pensées dans sa parole. Et ce qu'il dit, alors cela se réalise. Voyez? Dieu est là. Le Tout-Puissant, omniprésent, omniscient. Voyez? Mais il fallait qu'ils aient d'abord un faux baptême, et cela leur est caché, le monde ne le voit pas, et cela ne peut pas être vu, à moins que Dieu ne le révèle. Maintenant, arrivons à la conclusion, avant que nous ne prions pour les malades. Cela m'a pris plus de temps que je ne le pensais. Il y a encore une chose que je dois vous dire. Rappelez-vous, c'est que Père, Fils et Saint-Esprit, c'est un vrai Dieu. Il a un nom, et son nom est Seigneur Jésus-Christ. Christ le Seigneur, bien-aimé. Christ signifie loin, et Seigneur veut dire propriétaire. Et Dieu descendit, habite en lui, ce qui fait de lui le Père, le Fils, le Saint-Esprit, l'Alpha, l'Oméga, le commencement et la fin, celui qui était, qui est, qui vient, la racine et le rejeton de David. Il est tous les deux, il est à la fois la racine et il est le rejeton. L'étoile du matin, le premier et le dernier, voilà ce qu'il est. Qui pouvez-vous adorer? Comment pouvez-vous adorer si vous ne savez pas qui vous adorez? Comment pouvez-vous être spirituel si vous n'avez pas le Saint-Esprit, mais être lié par des credos et des dogmes? Vous pouvez être très religieux, accomplir des actes de bonne moralité, mais vous avez besoin du véritable Saint-Esprit, qui ne peut venir que par la prédication de la parole. Et si l'Esprit vient sur vous, il vous révélera la vérité. Il prendra ces mots que je vous ai prêchés, et il vous le révélera. Le Saint-Esprit le fera. Bien sûr, ce que l'un a laissé, l'autre l'a rongé, ce que les catholiques ont laissé, les luthériens l'ont mangé, etc., jusqu'aux pentecôtistes. Où cela a-t-il abouti, tout cet amas de péchés? Et combien d'autres choses sont-elles encore enseignées aujourd'hui? On serre les mains à la sortie aux gens et on souhaite la bienvenue dans l'église, on asperge les enfants et plusieurs autres les arrosent. Mais où a-t-on entendu cela dans la Bible? Alors que baptiser veut dire être enseveli. C'est cela la vérité de la parole de Dieu. Si nous avions le temps, nous pourrions continuer avec ces exemples. Je vous le dis, mes chers frères, un jour, je me tiendrai avec vous en jugement et je devrai répondre de ce que je prêche. Je ne répondrai pas d'après un livre de dogme, mais d'après la Bible. Et je me tiens sur la Bible. Nous ne voyons jamais dans la Bible qu'ils aient reçu le Saint-Esprit sans que la puissance soit aussi manifestée. Par le parler en langue, par des prophéties, par des signes, par des miracles, etc. Il n'y a pas d'endroit dans la Bible où ils aient été baptisés différemment que dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Jamais la Trinité n'a été enseignée dans la Bible. Écoute Israël, moi, le Seigneur ton Dieu, je suis le seul Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu hors de moi. Non pas trois dieux, mais un Dieu. Il est Dieu éternellement. Il était Dieu, il est Dieu, il sera Dieu. Mais les dénominations vous rejettent. Si vous venez dans l'amour fraternel et enseignez la vérité afin de sauver ce qui peut encore être sauvé, mais parce que vous êtes fondé sur l'enseignement biblique, vous êtes rejeté des autres. Ce ne peut être que le coup le plus machiavélique du diable, qui veut empêcher que les enfants de Dieu ne mangent le pain de vie, c'est vrai. Ici est le rocher de la parole de Dieu, et en tout temps, je suis prêt à recevoir chacun dans l'amour de Dieu, et je vous prie de me montrer une seule chose que j'ai enseignée et qui ne soit pas biblique, c'est la vérité. Mais, parce que vous prenez position pour cela, vous êtes rejeté. Je m'y attendais. Dieu me l'a dit dès le début qu'il en serait ainsi. Ils ont fait la même chose avec lui. Ils disaient, de quelle école est-il? D'où sort-il? Il était le fils du Dieu vivant, et il n'a pris parti pour aucun. Laissez-moi avoir assez de courage. Laissez-moi être suffisamment viril. Laissez Christ être suffisamment en moi, et si je reste seul debout, que je marche dans la vérité, et que je prêche aux hommes. Je préfère prêcher l'Évangile à 5 personnes dans la vérité que de dire ce qui n'est pas vrai à 1 million de personnes et de faire des compromis. Dieu m'a dit, alors que se manifestèrent tous ces grands signes et ces miracles, les signes de la résurrection de Jésus pour son Église, mais les hommes sont maintenant liés, mais laissez-moi vous dire, Dieu va restituer à nouveau toutes les choses qui ont été rongées. Dieu va les restaurer. Je vais les restituer, dit le Seigneur. Ainsi, aidez-moi, je donne la prophétie avant la venue du Seigneur. Ainsi, la vraie foi apostolique, le véritable esprit apostolique de Dieu, qui vint jadis, se répandra à nouveau. Les pentecôtistes l'ont reçu en partie, mais ils se sont aussi rassemblés pour fonder une organisation. Et lorsque le Seigneur envoya ce don, ils sont venus, et il voulait créer une organisation de la pluie de l'arrière-saison avec moi. Et d'autres ont voulu que je me joigne aux assemblées de Dieu, d'autres de nouveau ailleurs. Et je me suis tenu au milieu d'eux, et je leur ai dit, c'est là qu'est le fondement. Éloignez-vous de toutes ces choses faites par les hommes. Et alors vous aurez la prophétie, c'est alors que vous aurez le discernement, c'est alors que vous aurez la puissance de l'Esprit. Et la restitution de l'Église et de ses dons, la vraie vie de Dieu en vous. Mais les hommes diront, oh, c'est pour un autre temps, mais il est toujours le même. Il est l'alpha et l'oméga, absolument. Nous devons retourner au fondement, car c'est sur ce roc que je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Que Dieu vous bénisse. Peut-être pensez-vous que je hausse un peu le ton, mais je pense que je suis en ordre pour cette parole. L'Esprit de Dieu est ici. Le même Esprit qui a été écrit la Bible dira Amen à chacune de ces paroles. Et si chacun a été baptisé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, le vrai Esprit de Dieu dit Amen. Et si la Bible dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, l'Esprit de Dieu dit Amen à tout cela. Et si c'est le véritable Esprit de Dieu, alors la véritable révélation de Dieu est au milieu de nous. juger et confronter la parole que vous avez entendue avec la Bible. Maintenant, avons-nous aujourd'hui un service de baptême? J'aimerais le savoir. Non. Sinon alors, c'est en ordre. Nous pouvons prier pour les malades. Y a-t-il des personnes qui sont malades? Et combien y a-t-il qui me sont étrangères, que je ne connais pas? Je vous suis étranger, c'est exact. Vous êtes malade et souffrant. Et si Dieu est Dieu, et qu'il est le Dieu de la parole que je prêche, Jésus a dit, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Et encore même de plus grandes, car je m'en vais au Père. Et il s'en est retourné de ce corps humain dans la colonne de feu. Et Saul, sur le chemin de Damas, l'a vu. Et qui a-t-il vu dans le feu? Le Seigneur était dans la colonne de feu. Et qu'est-il aujourd'hui? Qu'est-il dans cette photographie? Vous pouvez dire, frère Branham, vous pouvez le dire ainsi. Si c'est la vérité de Dieu, si c'est la même colonne de feu, le même Seigneur Jésus-Christ, alors il entrera en moi et il fera la même chose. Il accomplira la parole qu'il a prononcée. Voyez, il l'a parlé. Votre incrédulité ne l'a pas arrêté. Il ne tient parti pour aucun. Il a prêché comme il l'a reçu de Dieu, assurément. Et à Golgotha, il se trouva seul. Il était seul. Et si vous voulez atteindre un but pour Dieu, vous vous trouverez seul. C'est vous, non pas votre église, non pas votre dénomination, mais vous et Dieu. J'ai prié les gens qui sont venus ici de faire tout ce qu'ordonne la parole de Dieu. Et s'ils ne le font pas, c'est leur responsabilité. Je suis libre et je me tiens devant Dieu avec les méthodistes, les trinitaires. Et qu'avons-nous à faire? J'étais dans les assemblées de Dieu. Ils n'approuvent pas les monothéistes. Bien sûr, Jésus avait un Père. Il baptisait au nom de Jésus, mais moi, je baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car dans les pays d'Amérique latine, beaucoup portent le nom de Jésus, mais il n'y a qu'un seul Seigneur Jésus-Christ. Et il est le Père, Fils et Saint-Esprit. Voyez, Jésus, le Fils, le Logos, il sortit de Dieu au commencement. Voyez, oh, je suis si heureux de cela. Mon cœur tressaille de joie, car son Esprit est ici. L'Esprit qui a écrit la parole est ici. Il vient pour se révéler. Et si Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est ici, et si je dis la vérité concernant sa parole, alors il se manifestera. Nous avons déjà dépassé le temps. Je n'aimerais pas prier pour les personnes qui viennent toujours ici, mais seulement pour celles qui sont étrangères à l'Église et qui sont malades. Et si je dis la vérité sur Dieu, et ces gens savent que je ne les connais pas, et si le Saint-Esprit est le même, il peut révéler ce qui est en eux. Alors il est dans l'obligation de se révéler comme il l'a fait au début. Et la vie s'écoule tout à nouveau, et l'Église peut dire, « Oh, c'est de la télépathie ou de la divination. » Mais ils ont dit la même chose du Seigneur Jésus. Ils ont dit, il est Belzébul, mais ceci ne l'arrêta pas et ne fit que l'élever. Il est toujours encore Dieu. Il est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Il honore sa parole. Je vous en supplie tous, si vous n'êtes pas encore baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, faites-le. Ne vous préoccupez pas de ce que dit l'Église ou n'importe qui. J'ai eu des hommes dans mon bureau, des hommes bons, et je leur ai demandé, montrez-moi une seule fois lorsqu'une personne fut baptisée dans la Bible au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Et je leur ai dit maintenant, vous pouvez me prouver votre doctrine, mais seulement si quelqu'un dans la Bible a été baptisé différemment. Et il y a eu des hommes qui ne furent baptisés dans aucun nom, mais seulement dans le baptême de Jean. Et Paul trouva ces gens. Ils avaient un bon prédicateur, et c'était Apollos. Et Paul demanda à ces hommes, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru ?» Ils répondirent, « Nous ne savions même pas qu'il existait un Saint-Esprit. Comment donc avez-vous été baptisés ?» Ils répondirent, « Du baptême de Jean, le même homme qui a baptisé Jésus. » Et qu'est-il arrivé ? Paul leur a dit, vous devez être baptisé à nouveau. Voyez, Jean a baptisé du baptême de repentance et non pour la rémission des péchés. Il prêchait qu'il devait croire en celui qui allait venir. Et alors, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Paul leur imposa les mains, ils parlèrent en langue, ils prophétisèrent, et ils reçurent le Saint-Esprit. Donc Paul est celui qui a dit à ces gens qu'ils devaient se faire baptiser une nouvelle fois parce qu'ils n'étaient pas encore baptisés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai le droit de dire la même chose. Qu'a dit Paul dans Galates chapitre 1 verset 8? Combien savent que Paul a dit, si un ange venait, non pas quelqu'un d'une église ou d'une dénomination, mais si un ange du ciel venait, vous annoncer un autre évangile que celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit maudit. Et il a poursuivi au verset 9, je l'ai déjà dit et je le dis encore maintenant, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Voyez, si un ange annonçait autre chose, qu'il soit maudit, cela est juste, qu'il soit maudit, ne faites pas de cas de lui. Et si un prédicateur, un missionnaire, un évangéliste vous invitait à être baptisé différemment que dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, permettez-moi de dire avec Paul qu'il soit maudit. Amen. Il ne suffit pas seulement de serrer la main d'un prédicateur. Qu'il soit maudit, car le Saint-Esprit opère une nouvelle naissance. Non ce que nous avons maintenant, et comme j'ai déjà dit autrefois, une naissance terrestre est tout un remue-ménage. Qu'elle ait lieu à la maison ou dans une clinique ou dans le plus somptueux endroit, elle est en elle-même un remue-ménage. Ainsi en est-il avec la nouvelle naissance en Dieu. Il y a des cris, des pleurs, mais alors en jaillit la vie, voyez. Nous devons éclore à cette vie, non seulement serrer des mains ou être membre d'une église et dire « Je crois en Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, et à la Sainte Église de Rome. » Et si vous croyez à la communion des saints, de ceux qui sont morts, alors sachez que cela est du diable. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, homme. Et il n'est pas mort, il vit. Tous les saints du catholicisme ou du protestantisme, tous sont morts. S'ils étaient réellement saints, alors ils sont dans la gloire. Mais si vous avez une communion avec les morts, c'est du diable. Ainsi le dit la Bible. Voyez, cela aussi a été changé. Mais Dieu restitue toutes choses dans son état d'origine. Non plus Sainte-Cécile ou tous ses saints, mais leur retour au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur a dit, je restituerai. Et nous voyons que la vie éclot à nouveau. Dieu veut rétablir son Église dans sa plénitude, dans la stature d'un homme adulte. Ô Dieu, je te supplie maintenant de tout mon cœur. Ta parole a été prêchée. Je te prie, bénis-les tous. Et je te prie, révèle à tous dans ta lumière. Puissent-ils le comprendre, puissent-ils être tous guéris par le baume de ton esprit, Seigneur. Et pour ceux qui ont été baptisés dans trois dieux, qu'ils puissent reconnaître leurs erreurs. Mais peu importe au fait le nombre de fois que je prêche, ils ne le comprendront pas si toi, tu ne leur révèles pas. Tu as fait tant de miracles dans les réunions. Tu as prouvé que tu es le Messie. Mais Esaïe a dit, ils ont des yeux mais ne voient pas, ils ont des oreilles mais n'entendent pas. Tu as fait retentir ta parole, indiquant le retour au fondement d'origine. Tu as révélé les vérités bibliques. Tu l'as confirmé par de grands miracles et des signes. Et qu'arrive-t-ils? Ils ne peuvent pas l'accepter. Car Paul, par l'Esprit, l'a annoncé qu'ils sont orgueilleux, aimant le plaisir, réfutant ceux qui sont droits, les condamnant, les dénigrant. Ils ont la forme de la piété, mais ils renient sa puissance. Détourne-toi de tels hommes. Oh, je t'en supplie, révèle-toi. Rends maintenant ta parole vivante parmi nous. Je t'en supplie dans le nom de Jésus. Et si tu veux le faire, nous voulons tous nous réjouir et te remercier. Nos cœurs tressailleront de joie. Seigneur, parle à chaque cœur. Alors que nous sommes dans l'attente, que tu te révèles toi-même et que ton esprit fasse pénétrer la vraie vie divine dans ces sarments qui pendent. Seigneur, confirme ta parole. Chaque homme est un menteur, mais ta parole est la vérité. Peu importe combien s'oppose, qu'il m'en coûte même la mort en martyr, qu'il ne puisse plus y avoir de convention nulle part, mais Seigneur, je me tiens sur ta parole. Et ceux qui doivent t'entendre viendront. Car tu as dit, mes brebis entendent ma voix. Et comme tu as appelé les brebis au début, ainsi tu les appelles aussi dans ce temps de la fin. Ils ne suivront pas un étranger. Et autrefois tu les appelais ainsi, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Tes brebis entendent ta voix de la même manière. Même si les autres disent cet antichrist, non, ils ne le croiront pas, ils ne les suivront pas. Ô Dieu, je te prie de confirmer ta parole. Je t'en supplie, agrée tout ce que nous te demandons dans ton nom. Je te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Quelqu'un sur la bande parle en langue. Et frère Branham attend quelques instants, puis continue, note de l'éditeur. Maintenant, l'Esprit de Dieu agit. Je vais tourner le dos à l'Assemblée. Et je n'aimerais pas que les habitués qui viennent toujours ici s'approchent de Dieu pour la guérison, mais seulement ceux qui ne sont venus ici qu'en visite. Priez Dieu, et je tourne le dos à l'Assemblée, et Dieu le révélera. Je ne vous connais pas. Avez-vous une carte de prière? Jésus a dit, « Qui m'a touché ?» Puisse Dieu au moins le confirmer deux fois qu'il est ici, car il est écrit que toute chose repose sur deux ou trois témoins. Quoi que ce soit dont vous avez besoin, priez Dieu, il vous l'accordera. Et si vous le croyez, levez vos mains maintenant. Combien sont ici qui n'ont pas encore vu que le Seigneur se révèle de cette manière? Voyez-vous sur quoi je me base? C'est une exhortation. Si Dieu est Dieu, il se révélera. Si ce que j'ai dit n'est pas la vérité, alors je suis un faux prophète. Et il ne faut plus jamais venir m'écouter, car je serai alors un faux prophète. Et j'aurai alors déposé un faux témoignage de la parole de Dieu. Cette femme là-bas qui prie si intensément, elle est de notre Église. Que Dieu vous exauce. Cela dépend des gens que Dieu se tourne vers eux. Mais j'aimerais quelqu'un que je ne connaisse pas. Oui, ici, vous n'êtes pas de notre milieu. Vous êtes de l'extérieur. Levez-vous, je vous prie. Pendant que vous étiez en prière, une sensation particulière est venue sur vous. C'était la présence de l'ange du Seigneur. Il se tient toujours à vos côtés en ce moment. Vous avez touché quelque chose. Je ne sais pas ce que vous avez, mais vous n'êtes pas de cette ville. Vous êtes de Louisville, dans le Tennessee. Ou d'ailleurs, je ne sais pas, mais seulement si Dieu veut me le révéler, voulez-vous accepter la parole et agir en conséquence? Alors que tous les gens regardent ici, puisse le Saint-Esprit le révéler. N'ayez point de crainte, il est Dieu, il tient sa parole, chaque fois. Et cette femme-là avait une dépression nerveuse. Si cela est vrai, levez la main. Vous souffrez du cœur, c'est nerveux. Cette douleur cardiaque est à son comble lorsque vous vous couchez. Vous êtes de l'Ohio, vous avez eu une opération. Et cette opération n'est pas encore guérie. Vous êtes de l'Ohio. Vous portez un besoin sur votre cœur. Pour une fille. C'est votre fille. C'est votre propre fille. Elle est estropiée. Ainsi dit le Seigneur, allez, recevez ce que vous avez demandé. Vous l'avez touché, croyez-le. Qui est encore ici? Croyez-vous que le Seigneur va me révéler pourquoi vous êtes ici? Croyez-vous que c'est le même Dieu? Vous avez une ombre sombre sur vous. Vous avez un cancer. Croyez-vous que Dieu veut vous guérir? Oui, alors vous pouvez vous aussi retourner à Lebanon dans l'Ohio, car vous venez de là. Oui, alors vous pouvez vous aussi retourner à Lebanon dans l'Ohio, car vous venez de là. Jésus-Christ vous a guéri. Une femme est encore assise ici. Elle a une maladie de la peau. Je vous en prie, levez-vous. quelque chose vous a quelque peu choqué, mais allez, car vous êtes guéri dans le nom du Seigneur Jésus.